1685, la révocation de l'édit de Nantes. L'image de Louis XIV est associée au château de Versailles, qui peut nous étonner, nous intriguer, nous fasciner. Elle est également indissociable d'une décision politique qui étonne, intrigue ou consterne. La révocation de l'édit de Nantes. Il s'agit tout simplement de mettre à la porte du royaume de France des centaines de milliers de protestants. Entre les courtisans empressés, les gelinottes, les chevreuils, les biches, entre Louise, Françoise et Françoise, les parties de chasse, la danse, le billard, la cactoire et autres occupations fort nécessaires, Louis trouve quand même le temps de s'occuper des affaires du pays. Quel roi ! Oui, mais le roi va bientôt se transformer en roi dans ce qui est considéré par beaucoup d'historiens comme l'erreur majeure de son règne. La révocation de l'édit de Nantes. Rappelez-vous Henri IV qui, sagement, en 1598, signe cet édit permanent aux deux religions de cohabiter. Rappelez-vous son fils Louis XIII qui lutte contre les protestants, refusant avec son ministre Richelieu qu'il constitue un état dans l'état, avec pour tragédie le siège de La Rochelle. Et puis cette paix d'Alès qui supprime les places fortes des réformés. L'obsession de Louis XIV, c'est de donner à la France son unité religieuse. Tout son entourage de dévots l'y encourage, Bossuet en tête. Louvois imagine même un procédé très efficace pour convertir les protestants récalcitrants. Ses dragons, soldats paillards et avinés, s'en vont chez eux, s'y installent. Leur mission consiste à les ramener dans la foi catholique. Si ceux-ci refusent, les dragons violentent les hommes, parfois les tuent, violent les femmes et martyrisent les enfants. Après le traitement de choc des dragonnades de Louvois, il ne reste presque plus de protestants en France. C'est ce qu'on affirme au roi Soleil. Et il le croit. Dans ce cas, à quoi bon maintenir ce que grand-père Henri IV avait signé, l'édit de Nantes ? Et puis, et c'est surtout ce qui va emporter la décision dans l'esprit de Louis XIV, en 1683, l'empereur Léopold a vaincu les Turcs devant Vienne. Il risque de passer pour le seul défenseur de la chrétienté. Que va-t-il advenir alors du plus grand roi du monde qui ambitionne de se faire élire empereur des catholiques romains ? Il prend sa décision. Le 18 octobre 1685, l'édit de Nantes est révoqué par l'édit de Fontainebleau. La religion réformée est interdite en France.
God save the king. Cela devait arriver, c'est arrivé. À force de manger comme un glouton, d'alterner entérite et constipation, et de lutter contre tout cela par des clistères, des lavements rectaux de toutes sortes, le roi, le grand roi, est affecté d'une fistule anale. Alors, une fistule, c'est un petit conduit naturel qui pratique une ouverture non autorisée dans quelques régions du corps. Et pour Louis XIV, cette ouverture clandestine se situe dans la partie anale de son organisme humain. On laisse de côté pour l'occasion la part divine. Après 4 années de souffrance, il se décide à autoriser les médecins à l'opérer. Hélas, son chirurgien Félix n'a jamais opéré de fistule. Il va donc fabriquer un bistouri d'argent. On ne sait jamais, le métal précieux peut circonvenir l'incompétence. Après avoir tenté des interventions sur d'autres patients, Félix, le 18 novembre 1686, s'attaque à la fistule. Dès le lendemain, on déclare le roi guéri, c'est faux. Il faudra encore 8 opérations et beaucoup d'affreuses souffrances pour qu'il se remette. Mais le peuple voit dans la guérison soudaine de son monarque un signe divin, un miracle. Louli est chargé de composer un hymne pour célébrer l'infinie bonté du Créateur, sauveur des hommes et de leurs fistules. Madame de Brinon, la supérieure de Saint-Cyr, fief confie en dévotion de Madame de Maintenon, compose les paroles. « Grand Dieu sauve le roi, long jour à notre roi ». En 1714, Handel, le compositeur allemand installé en Angleterre depuis 1712, vient à Paris, entend l'hymne qui le charme. Il en note la musique, repart en Angleterre, demande au pasteur Carré de lui traduire en anglais les paroles. Et cela donne « God save our gracious king ». Handel signe l'ensemble de son nom, puis il offre son œuvre au roi George Ier. Ainsi naquit l'hymne national anglais qui, aujourd'hui « God save the queen », continue de remercier Dieu d'avoir guéri le roi de France de sa fistule anale.
L'intelligence robuste du roi Soleil n'a pas prévu que près de 300 000 protestants, excellents commerçants, artisans, banquiers, ouvriers, vont quitter le royaume et s'en aller enrichir la Hollande, par exemple. Bien sûr, on a dit que la révocation de cet édit ne fut pas une si mauvaise affaire. Elle permit d'étendre les réseaux commerciaux avec les pays voisins. Elle répandit la langue française en Europe. Sans doute. Mais l'exil, l'image de ceux qui s'en vont parce qu'ils ne pensent pas comme il faut, quelle tâche, quelle défaite, jusqu'à la fin des siècles.